France Culture.
Une politique d'austérité dogmatique qui aggrave la crise et la misère. Un pouvoir exécutif qui fait adopter des mesures de destruction du modèle social à coup de 48-2. Une gauche social-démocrate qui soutient cette politique afin, dit-elle, d'éviter le pire. Un régime politique qui se présidentialise et concentre des pouvoirs exorbitants dans les mains faillibles d'un homme pas exagérément intelligent mais orgueilleux et buté. Le règne des entourages qui, par une logique de darwinisme inversé, celle de la courtisanerie, promeut les plus incompétents et les moins dignes, ceux qui sont prêts à s'avilir pour devenir des conseillers et donner dès lors à peu près tout autre chose que de réels conseils. Une dissolution ratée. Une seconde dissolution dangereuse, inepte, vu le contexte de croissance de l'extrême droite, mais demandée par cette même extrême droite et accordée en gage de bonne volonté. Une défaite cuisante aux législatives. Le refus de tenir compte des résultats des élections, la condamnation des extrêmes et la précision immédiate que certains sont plus extrêmes que d'autres et que ceux qui défendent la nation, les valeurs et la propriété seront toujours préférables à la gauche. Un milliardaire mania des médias et habité par une mission de résurrection nationale qui bâtit un empire de presse et de cinéma pour imposer ses cadrages, ses thèmes et sa ligne à un pays qui plébiscitait la paix et la justice sociale. Des paniques morales en isme, comme le bolchevisme culturel que l'on est bien en peine de définir, mais qui résume toutes les peurs liées à l'évolution des mœurs, féminisme, homosexualité, mode de vie urbain et à l'élévation générale du niveau d'éducation. Un gouvernement renversé dans des conditions humiliantes. Une autre dissolution, une autre défaite et de rechef le refus de tenir compte du résultat. Un gouvernement chargé des affaires courantes qui s'éternise. L'incapacité du président à nommer un nouveau chef du gouvernement. Des mois de réflexion au sommet de l'État pour échafauder le meilleur scénario qui permette de rester au pouvoir, malgré les élections et l'absence de majorité. Une politique de l'offre, ouvertement pro-business, faite de subventions aux entreprises et de crédits d'impôt. Des discours auto-justificateurs qui défendent cette ligne en clamant « Nous ne sommes pas le gouvernement des riches » et « La meilleure politique sociale, c'est la politique de l'emploi ». Un patronat qui applaudit et qui en réclame toujours plus. Des projets de réforme de la Constitution dans le sens d'un renforcement du pouvoir exécutif. Des intrigues de couloir permanentes. Un commentariat qui bavasse sur l'humeur du président, son dernier rhume ou l'ultime grommellement en date. Éternuement, fulgurance politique, décision majeure. En quête d'oracle et d'interprétation. Des libéraux autoritaires qui, au pouvoir, envisagent le recours à la force car ils savent bien que leur politique est impopulaire. Ces mêmes libéraux autoritaires qui souhaitent faire alliance avec l'extrême droite, qui reculent car en veut trop et font finalement le pari de lui confier le pouvoir. Vous l'avez deviné, c'est de l'Allemagne de 1933 qu'il s'agit, mais que d'écho avec la situation contemporaine en Allemagne, où la CDU vient de nouveau de faire alliance avec l'AFD, mais aussi avec la situation française contemporaine. Et c'est précisément de ces analogies dont nous parlerons ce soir avec l'historien Johan Chapoutou, avec aussi, en deuxième partie, l'écrivain Éric Vuillard, dans une suite dans les idées dont la dernière partie d'actualité sera consacrée à rendre hommage à un sociologue américain anglais qui travaillait aux États-Unis, Michael Burrowoy, qui est mort cette semaine aux États-Unis, donc dans ces États-Unis où la chasse aux sciences humaines et sociales a commencé dès l'investiture du président, mort écrasé par un chauffard au volant d'un SUV. Bonsoir, Johan Chapoutou.
Bonsoir, Sylvain Bourmont.
Vous êtes historien, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne et vous publiez dans cette belle collection NRFSL, Les Irresponsables qui a porté Hitler au pouvoir. J'ai choisi de commencer par cette longue citation d'un extrait dont vous dites d'ailleurs à propos de cette énumération de faits qu'elle aurait pu se poursuivre sur des pages et des pages encore et qui, quand on la lit, provoque un effet de sidération incroyable tant les choses résonnent. Évidemment, vous avez choisi d'utiliser un lexique pro-business, par exemple, qui n'avait aucun sens dans l'Allemagne de 1933, mais qui désigne au fond la même réalité sociale. Ça a dû être une drôle d'expérience que l'écriture, il y a quelques mois, durant l'été, j'imagine, alors que la France traversait une crise politique assez inédite, que l'écriture de ce livre, Johan Chapoutou.
Ça a aussi eu un effet, je dois dire, assez thérapeutique, puisque vu ce que nous vivions, c'est-à-dire le viol de la Constitution, hein, puisque pour la première fois dans ce pays depuis longtemps, le groupe parlementaire arrivé en tête n'a pas été appelé à former un gouvernement, contrairement aux dispositions de cette même Constitution parlementaire. Je me suis plongé dans cette autre actualité, parce que ça a été une actualité à un moment, celle de l'Allemagne de 1932, à laquelle je pensais depuis des années en vérité, et puis j'en parlais à mes étudiants dans mes cours, mais sans avoir vraiment retravaillé la chose. Et c'est en décembre dernier, au moment du vote de la loi immigration, quand j'ai vu que finalement la pente qui menait l'extrême centre vers l'extrême droite était beaucoup plus rapide que ce que je pensais.
Décembre 2023.
De 2023, exactement, que j'ai décidé de reprendre ce dossier de l'année 1932 en Allemagne et des manigances, intrigues de couloir, calculs sordides, petites manipulations qui, pour servir des intérêts bien compris, ont décidé de mettre l'extrême droite au pouvoir, de mettre les nazis au pouvoir. Et je dois dire que l'énumération que vous avez citée, j'en ai été le premier surpris, parce que j'avais évidemment quelques parallèles en tête, mais pas à ce point-là. J'ai été stupéfait au moment où j'approfondissais l'historiographie, c'est-à-dire quand je lisais mes collègues, comme quand je lisais les sources, les minutes du Reichstag, les comptes rendus des conseils des ministres, les mémoires et les correspondances des acteurs de l'époque, j'étais stupéfait de voir à quel point les échos étaient stridents.
Alors, vous êtes historien et vous avez fait un travail, vous venez de le rappeler, de lecture de vos collègues, mais aussi un travail plus direct auprès des sources, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un essai qui viserait à nous faire comprendre la proximité des situations, les échos. C'est un véritable travail d'historien qui revient sur cette période relativement brève, qui permet de comprendre l'enchaînement, les logiques sociales à l'œuvre, qui permet d'apporter une complexité à ce qui est aujourd'hui simplifié, caricaturé. Il y a un passage dans votre livre très intéressant aussi où vous revenez sur la manière dont les manuels scolaires ont changé en France. J'avais effectivement, moi qui ai bientôt 60 ans, le souvenir d'avoir appris au lycée des choses assez précises sur la République de Weimar. On s'attardait sur ce moment, on nous expliquait comment cela avait été possible qu'Hitler arrive au pouvoir. Or, depuis, les manuels scolaires ont changé, c'est le moins qu'on puisse dire.
À juste titre, oui, on s'en étonne parce que il a été un moment où on estimait que c'était un problème et une question majeure de s'interroger sur la disparition d'une démocratie au cœur de l'Europe au XXe siècle. Ce n'est pas rien. Manifestement, vu les programmes et vu les manuels, ce n'est plus une question utile à soumettre à la gouverne des professeurs et puis à l'interrogation, à la réflexion des élèves. Et donc j'ai fait effectivement cette petite recension de manuels anciens et contemporains dont je parle en introduction pour introduire précisément ce livre qui est un livre d'histoire. C'est un livre d'histoire qui essaie de répondre à une question. Qu'est-ce qui a fait que dans un pays de haute culture, avancé, le pays le plus alphabétisé d'Europe, qui avait une constitution libérale parlementaire tout à fait remarquable, l'extrême droite soit arrivée au pouvoir. Et les explications que l'on produit d'habitude dans l'espace public, dans l'espace médiatique, sont toutes fausses. Et dans les manuels aussi.
Dans les manuels, en gros, c'est le chômage et puis hop, il y a eu Hitler.
Il y a ça. Il y a également l'idée que les nazis ont été élus, ils n'ont jamais été élus, etc. Donc j'ai voulu reprendre ce dossier. Et effectivement, cette question-là, je l'ai traitée par rapport à d'autres parce que j'ai été saisi et interpellé par ma contemporanéité à moi. Je rappelle que toute histoire est contemporaine. Quand on fait l'histoire des femmes en Grèce, on en fait désormais alors qu'on n'en faisait pas il y a 50 ans. Toute histoire est contemporaine à la mesure où l'historienne, l'historien adresse au passé, pose au passé des questions qui sont celles de son lieu et de son temps, ici et maintenant. Et de fait, moi, ce qui me préoccupait en tant que citoyen, qu'individu, que professeur, que papa, que etc., c'était précisément cette actualité politique très singulière que nous vivions en France depuis 2017 au moins, aux États-Unis depuis 2016, au Brésil depuis 2018, de manière concomitante avec la victoire de l'extrême droite. Bref, ce sont ces questions-là qui me travaillaient, sur lesquelles je réfléchissais. Et quand on est historienne ou historien, on a un sixième sens qui s'appelle le temps. C'est-à-dire qu'on est toujours à mettre en perspective les questions, à les déployer, à en faire un lieu géométrique dans le temps. Et moi, mon lieu, c'est de fait l'Allemagne contemporaine, celle du XXe siècle. Et donc, j'ai repensé à cette histoire. Parce que quand je voyais ce que l'on vivait en France, avec des libéraux autoritaires, de fait pro-business, qui mènent une politique de l'offre et qui sont assez modérément démocrates, hein, quand on voit le surusage du 49-3 ou le non-respect des élections, j'ai repensé forcément à ces libéraux autoritaires qui ont été au pouvoir en 1932 en Allemagne, qu'on évacue d'habitude rapidement parce qu'ils sont restés peu longtemps au pouvoir. Or, moi, j'ai décidé de les prendre au sérieux. J'ai lu leur littérature, j'ai lu leur programmatique, j'ai vu dans quel temps long ils s'inscrivaient. Et par ailleurs, je les ai d'autant plus pris au sérieux que ce sont eux qui ont mis les nazis au pouvoir.
Vous écrivez à un moment comment l'extrême centre a mis l'extrême droite au pouvoir. L'extrême centre.
Mm-hmm. Oui, j'ai repris ce concept qui a été forgé par mon collègue et ami Pierre Cernat, hein, dans sa grande HDR sur le directoire. Un concept assez génial, parce que Pierre Cernat l'a forgé pour expliquer ce que c'est que le directoire, c'est-à-dire l'auto-érection d'une caste qui a décidé de rompre avec la Révolution pour assurer une sécurité juridique et civile, pour pouvoir faire des affaires et pour pouvoir s'enrichir. Et ces gens-là se prétendent déjà, en 1995, modérés, tempérés, le camp de la raison, contre les extrêmes, c'est tout un vocabulaire qui est créé à ce moment-là, alors qu'ils sont tous sauf modérés, ce sont des violents. Hein. Ils font tirer sur la foule, le général Bonaparte étant à l'époque leur factotum. Et Pierre Cernat a bien montré que ce concept-là, qui était tout à fait heuristique pour comprendre l'arrivée du directeur au pouvoir, en fait a une validité transhistorique, c'est-à-dire qu'il se déploie sur la totalité de la période jusqu'à aujourd'hui, hein, jusqu'au 19e et 20e siècle, cet extrême centre a été souvent au pouvoir en France. Et il me semble que ce concept là, que Pierre Cernat travaille pour la France, est tout à fait opératoire pour désigner, par exemple, les libéraux qui ont mis les fascistes au pouvoir en 1922. Hein, c'est toujours la même histoire, hein, quand même. C'est les libéraux qui mettent les fascistes au pouvoir en 22, et c'est les libéraux autoritaires qui mettent Hitler au pouvoir en 1933.
Alors, on suit très précisément, au fond, l'agenda politique, la stratégie politique, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. On ne peut pas simplement, pour comprendre pourquoi Hitler est arrivé au pouvoir, parler de causes économiques et sociales, du chômage, de la crise de 29, etc. C'est-à-dire que on le voit dès le début de votre livre, où vous racontez, au fond, la façon dont un certain nombre de politiciens allemands convertis récemment à la République finalement aimeraient bien revenir à un pouvoir monarchique, à un autre type d'exécutif en tous les cas. Et comment ils essaient, ils testent, ils consultent des juristes pour voir comment cette constitution peut être malmenée, peut produire une pratique institutionnelle assez différente de la philosophie dans laquelle elle a été rédigée.
L'enjeu, il est simple, il est bien posé par des comparaisons arithmétiques ou des dynamiques politiques. Hein. Ce qui s'appelle le centre bourgeois à l'époque, hein. Je reprends les termes allemands de l'époque, bürgerliche Mitte, le centre bourgeois, représente en gros presque 50% de l'électorat en 1928. À l'automne 1932, ça n'en représente plus que 10%. Donc là, il y a une érosion qui est au-delà du massif. Et tout l'enjeu pour ces gens, c'est de rester au pouvoir en l'absence de socle électoral et en l'absence de consécration par le suffrage. Et donc, toutes les hypothèses sont envisagées. Donc, je cite ce conseil des ministres ahurissant du 10 août 1932, où le ministre de l'Intérieur de von Papen, qui est chargé du respect de la Constitution, expose la situation politique, décrit les trois blocs, hein, déjà, qui sont au Reichstag, et énumère tous les articles de la Constitution que le gouvernement peut violer pour se maintenir au pouvoir sans suffrage. Et donc, j'insiste là-dessus, pour bien montrer qu'il y a des acteurs qui ont des intérêts à défendre, qui ont des stratégies, et parmi toutes les options qui s'offrent à eux, l'ultime, ça va être de faire alliance avec l'extrême droite. Et je le fais pour, d'une part, resituer le caractère, si vous voulez, indéfini du présent. Il n'y a pas de téléologie, rien n'est écrit en avance, tout est ouvert, tout est sur la table, comme on dit aujourd'hui. C'est vraiment des décisions d'acteurs. Et pour rompre avec cette mythologie qui plane, comme ça, quand on parle de l'arrivée des nazis au pouvoir, on parle de marée brune, on parle de poussée. Alors, on pense toujours en termes d'hydraulique.
Fièvre.
Oui, d'hydraulique, de tectonique, de géologie, comme si on avait affaire, ou de fièvre, comme si on avait affaire effectivement à des phénomènes naturels incoercibles et qui ressortissaient à la nécessité et non pas au choix et à la liberté des acteurs. Et donc, c'est pour ça que je développe à plusieurs reprises des analyses de type contrefactuel, pour bien resituer, encore une fois, le spectre des possibles qui s'ouvrait aux différents contemporains et ce qui a été décidé in fine. Et je le fais, encore une fois, parce que ce qui est dit d'habitude dans l'espace public ou même scolaire est faux. Corréler de manière nécessaire, si vous voulez, la crise financière, la crise économique, la crise sociale, la crise politique est faux. Parce que, au fond, ça me semble reposer sur des postulats qui sont frelatés, qui touchent d'ailleurs le suffrage universel sur lequel on fait peser un doute, ou qui fait peser un doute également sur les classes dites populaires ou laborieuses qui seraient menées à embrasser les extrêmes, vocabulaire de l'époque, là encore, et singulièrement l'extrême droite. Or, c'est faux. Toutes les études de sociologie électorale montrent que les ouvriers et les chômeurs ne votent pas majoritairement, et très loin de là, nazis. Qui vote nazi, ce sont des classes moyennes, qui sont la clientèle captive généralement de l'extrême-centre, qui sont épouvantées par l'idée du déclassement et qui achètent, au fond, un discours plus radical, plus violent, plus brutal que celui de leurs représentants habituels. Et donc, il fallait remettre cela à plat pour bien montrer que, généralement, quand on, si vous voulez, quand on dit ce genre de choses, la poussée brune, la marée brune, le caractère inexorable de la montée du fascisme, on ne fait pas de l'histoire, on ne fait pas de la politique, on fait de la mythologie sur des prémices relatées.
Vous parliez d'histoire contrefactuelle, vous y allez fort au début du livre, dans le prologue, puisque vous imaginez que von Papen, l'homme qui a réalisé cette alliance avec l'extrême droite et mis Hitler au gouvernement, est toujours vivant en 2019, qu'il a 140 ans. Et en fait, c'est un collectif d'activistes allemands qui vous a soufflé l'idée, puisqu'ils ont apporté la pierre tombale de von Papen devant le siège de la CDU à Berlin. Ça, on a parlé des échos avec la situation française, mais les échos avec la situation allemande, à la veille là d'élections importantes, alors même que le patron de la CDU a fait alliance avec l'extrême droite, elle est aussi incroyable, d'autant plus incroyable que par ailleurs, on sait à quel point la mémoire et l'histoire récente de ce pays pèsent par exemple sur l'analyse que font les Allemands de la situation internationale au Proche-Orient, pour prendre un exemple, mais beaucoup d'autres. Alors comment peut-on penser cette actualité contemporaine au regard de ce que vous décrivez?
Alors c'est amusant cette histoire, parce que un lecteur qui apparemment est allé très tôt en librairie aujourd'hui m'a écrit pour me dire: je pense que vous avez fait une erreur, vous parlez de von Papen en 2019, il me semble qu'il est mort en 1969. C'est très juste, et effectivement c'est un collectif politique qui a pris la pierre tombale de von Papen pour lui faire faire ce voyage de 800 km vers Berlin. Et ça me permettait de montrer au fond que von Papen, de la même manière que tout Weimar, ce sont des revenants. Il ne cesse de hanter l'histoire allemande, et pendant des décennies, on a parlé de la situation de Weimar, du retour de Weimar, des Weimarer Verhältnisse en allemand, et encore aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2019, au moment où ce collectif avait mis la pierre tombale de von Papen devant le siège de la CDU, la droite coalisée venait de gagner les élections en Thuringe. La droite coalisée, c'est-à-dire la CDU-CSU, plus le FDP, les libéraux, plus l'extrême droite AFD. Et quand on additionnait les trois, ça donnait 52%. Et comme le Land venait d'être gouverné par la gauche, la droite a dit: bon, bah, cette fois-ci, on fait alliance et on se débarrasse de la gauche. Après tout, c'est eux les extrêmes, c'est eux les méchants. Ça avait provoqué un tel scandale que le libéral qui avait été élu ministère-président de Thuringe avait dû démissionner au bout de trois jours. Or là, on se rend compte qu'à nouveau, en septembre 2024, l'AFD a fait 31% en Thuringe. Ce qui est très intéressant en termes de rémanence historique, parce que la Thuringe, et je le rappelle dans le livre, est le premier Land, c'est un état fédéral l'Allemagne, le premier Land à avoir été gouverné par l'extrême droite, coalisée avec la droite. Il y a eu un gouvernement droite-extrême droite dès décembre 1930 en Thuringe, avec un ministre de l'Intérieur, les nazis ne demandant à chaque fois
que le ministère de l'Intérieur, à l'échelle locale comme à l'échelle
exactement, ce qui fait dire d'ailleurs à la droite que ces gens-là au fond sont très raisonnables. Et puis finalement, ça se passe toujours très bien avec les nazis. Hein. Ils savent très bien manier la fourchette à poisson, différencier le verre de vin du verre d'eau. Ils sont parfaitement éduqués. Ils ne demandent que le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire tous les organes de renseignement, de répression et d'enseignement dans la tradition allemande. Et tout se passe bien. Et de fait, le ministre qui avait été ministre de l'Intérieur en Thuringe, le docteur Wilhelm Frick, docteur en droit, a été ensuite le premier ministre de l'Intérieur du Reich dans le gouvernement Hitler-Papen de coalition droite-extrême droite du 30 janvier 1933.
Autre résonance, le rôle important, et vous consacrez un chapitre à cette personne, de ce mania de la presse. Alors certes, il ressemble pas tout à fait à des modèles plus contemporains, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, mais parce qu'il est
plus intelligent,
universitaire,
beaucoup plus intelligent.
mais enfin, dites-nous de qui il s'agit.
Alors,
c'est
un homme qui s'appelle Alfred Hugenberg, qui est docteur en sciences politiques. Il avait fait une thèse à la fin du 19e siècle sur la colonisation allemande, la colonisation agraire en Allemagne, qui était un vrai enjeu d'aménagement du territoire et de démographie allemande dans les zones polonaises, dans les zones baltes, etc. Ça a été un haut fonctionnaire chargé de la colonisation par la suite, et ensuite ça a été un mania de la Ruhr. Il avait des investissements dans l'industrie lourde, et pendant la Première Guerre mondiale, il a changé de fusil d'épaule. Il s'est dit que les canons c'est bien, mais les médias c'est mieux. Il a eu cette prise de conscience pendant la guerre.
On en connaît qui font les deux la fois.
Alors, il a gardé quelques billes dans l'industrie lourde, mais il a investi massivement dans les médias. Il a créé un empire, le fameux Concern Hugenberg, qui rassemblait une vingtaine de titres en propriété directe, de magazines, journaux, etc., qui étaient parfaitement uniformes dans leur message politique. Il a acheté deux compagnies de cinéma, dont une compagnie qui faisait les actualités cinématographiques. Et par ailleurs, il a créé, comme c'est un bon capitaliste...
Oui, c'était avant la télévision, hein, donc c'était le principal média animé, enfin d'image en mouvement.
Et il a créé également une agence qui livrait tout près des éditos, des rubriques pré-rédigées. Et ainsi, il contrôlait la ligne éditoriale de 1600 journaux à travers l'Allemagne. 1600 journaux, tout en gagnant beaucoup d'argent. Et c'est quelqu'un qui était alors un ultranationaliste, un raciste, pan-germaniste, misogyne, antisémite. Enfin, c'est un homme d'extrême droite. Et il a littéralement nazifié l'espace public allemand dans la seconde moitié des années 20. Et c'est quelqu'un qui a d'ailleurs voulu faire l'union des droites avec les nazis, avec le front de Harzburg en octobre 1931. Et c'est quelqu'un qui récompensait tout cela en devenant ministre de l'économie du gouvernement de coalition droite-extrême-droite Hitler-Papen. Mais ce qui est très intéressant, et c'est assez indicatif au fond du sort de tous ceux qui ont voulu faire la courte échelle aux nazis et qui se sont fait dévorer, Hugenberg en 6 mois a disparu.
Alors qu'il pensait l'inverse, hein, il pensait les cornériser très rapidement.
Absolument. Le calcul de Papen, c'est de dire que voilà, l'homme des réseaux, l'homme bien né, l'homme bien éduqué, c'est lui, le professionnel de la politique, c'est lui. Hitler n'est qu'un agitateur de brasserie, c'est vraiment un clown hystérique et moustachu qui ne pèse rien, qui n'a même pas son brevet des collège. Il y a vraiment une condescendance sociale extrême vis-à-vis d'Hitler. Sauf que ce que n'ont pas vu tous ces gens-là, c'est que, effectivement, la première ligne peut paraître un peu burlesque. Vous avez un obèse morphinomane, vous avez Hitler qui fait pas très sérieux, mais derrière, vous avez une deuxième, une troisième ligne de gens très sérieux. Des diplômés d'université, des docteurs, des hauts fonctionnaires qui travaillent et qui vont subvertir l'Allemagne en quelques semaines. Et parmi leurs victimes, effectivement, Alfred Hugenberg qui, en quelques mois, a tout perdu. Il a perdu son ministère, il a perdu son empire médiatique, qui doit être cédé aux nazis après que cet empire a rendu des services éminents, évidemment, aux nazis.
Il y a une expression sur laquelle j'aimerais qu'on s'arrête un moment, Johann Saputo, à propos de votre livre « Les irresponsables » qui a porté Hitler au pouvoir. C'est l'expression de libéral autoritaire. Mmh. Parce qu'au fond, c'est peut-être notre difficulté à penser simultanément ces deux choses qui nous a empêchés pendant trop longtemps de voir ce qui a rendu possible les transformations de l'espace public, des règles du jeu politique. C'est-à-dire que peut-être qu'on a fait pendant trop longtemps confiance au libéralisme comme tradition politique, comme philosophie politique, qui nous a donné le constitutionnalisme, qui nous a donné les libertés publiques. Mais qu'au fond, cette philosophie politique ou cette tradition politique n'était pas exempte de dérives autoritaire, elle n'était pas immunisée contre ces dérives autoritaires. Et on n'a pas dû attendre les formes les plus récente, le néolibéralisme, dont on sait que la dimension, depuis Wendy Brown notamment, que la dimension autoritaire est l'une des caractéristiques. En fait, dès ces années 20, le libéralisme présentait des traits d'autoritarisme, ou pouvait présenter des traits d'autoritarisme très saillants, Johann Chapoutot.
Ce qui est intéressant, c'est que le syntagme de libéralisme autoritaire, il est forgé à l'époque. C'est une époque vraiment très matricielle, en fait, hein, en termes de d'essais politiques. On essaye la politique de l'offre, alors ça marche pas à l'époque, mais voilà. On essaye l'austérité, ça ne marche pas, mais bref. Il y a vraiment le fait, si vous voulez, qu'il y ait cette crise majeure de 1929, cette fin du premier monde libéral, engendre toute une série d'expériences qui sont encore les nôtres aujourd'hui, qui sont poursuivies encore aujourd'hui. Et parmi celles-ci, le libéralisme autoritaire, alors c'est un juriste qui s'appelle Hermann Heller, qui est un avocat, un docteur en droit, qui qualifie ainsi la vision politico-économique de Carl Schmitt. Et ça, c'est un travail qu'a fait Grégoire Chamaillou dans son HDR, un petit livre qui s'appelle « Du libéralisme autoritaire » où il fait l'édition de deux textes. Un discours de Carl Schmitt devant l'association des patrons, le club de l'industrie de Düsseldorf, où Hitler est venu parler d'ailleurs quelques mois plus tôt, où Schmitt définit un État fort qui serait en fait un État qui sait se réduire au régalien et ne pas envahir la sphère économique. Vraiment du libéralisme et de l'autoritarisme, et la réponse de Hermann Heller qui définit ce syntagme du libéralisme autoritaire, qui a été ensuite repris évidemment par beaucoup de politistes et de philosophes, hein, Barbara Stiegler dans sa propre HDR justement, qui avait été édité également par Eric Vigne.
Il faut s'adapter.
Ce syntagme peut paraître un peu paradoxal, parce qu'il est oxymorique, enfin il semble oxymorique, de même que extrême-centre, hein, Pierre Cernin s'en explique très bien. Il faut savoir penser la politique par oxymore, hein, en réalité. Et libéralisme autoritaire, c'est quelque chose dont Eugénie Mériot, par exemple, excellente constitutionniste, nous montre très bien la très longue tradition et, au fond, l'homogénéité. On vit, si vous voulez, sur une forme de catéchisme mythologique depuis 1945. Il y a eu une décision des États-Unis pour la démocratie, pour la liberté, pour le capitalisme à ce moment-là. Donc on a cru que tout cela était aligné. Pas besoin de trop regarder ce qu'il se passe aux États-Unis depuis 2016 pour se rendre compte que ce n'est absolument pas le cas. C'est totalement décorrélé, que la poursuite du profit par la dévastation des environnements et des êtres se satisfait très bien de l'abandon de la démocratie. Ce sont des choses qui avaient été théorisées et dites expressis verbis par des théoriciens du libéralisme dès les années 40. Quand on lit Friedrich Hayek, quand on lit La route de la servitude, il vous dit exactement ça. Il vous dit que la démocratie, pourquoi pas, si et seulement si ça reste dans les limites de la simple raison. C'est-à-dire si la gauche ne gagne pas. Si la gauche gagne, là, ça devient problématique. Et donc, là, on peut recourir à des solutions un petit peu plus musclées. Mais tout ça, il fallait être d'une naïveté confondante ou d'une ignorance totale pour ne pas se rendre compte de ça et découvrir avec Macron, avec Trump, avec Bolsonaro, avec Musk, avec Peter Thiel ou avec l'AFD que, comment dire, le libéralisme autoritaire était une réalité structurelle, hein.
On a beaucoup entendu parler des juristes. On se rend compte qu'ils jouent un rôle très très important, parce que ce qui est en jeu et ce qui permet l'accession au pouvoir de l'extrême droite, c'est pas le vote, c'est plutôt les libertés prises avec la Constitution, avec les règles du jeu, pas seulement constitutionnelles, avec toutes les règles du jeu politique. Au fond, on voit que ces décisions, ces manières de tester, d'aller jusqu'au bout, de ne pas respecter les règles habituelles, c'est des petites choses qui font bouger peu à peu, ça se passe sur quelques années, au fond.
Avec des effets de cliquet, hein, on s'en rend compte, il en reste toujours quelque chose. Il faut voir que, et je le rappelle dans le livre, à partir de 1930, on change de régime en Allemagne, dès cette époque-là. C'est une république libérale parlementaire, où le Parlement gouverne. Le seul problème, c'est qu'entre 1928 et 1930, vous avez un gouvernement de coalition entre la gauche et entre les sociodémocrates et la droite, un gouvernement de grande coalition dirigé par un social-démocrate. Alors, sociodémocrates sont des gens très tempérés, mais quand même, ils font passer quelques mesures sociales, dont une assurance chômage qui horrifie le patronat. Vous avez une brochure du RD MRDI, qui est l'équivalent du MEDEF à l'époque, qui, à la fin de 1929, déclare la guerre au gouvernement, en disant que c'est la fin de la civilisation si on continue dans la construction de l'État social. Et c'est ce qui décide l'entourage du président du Reich, qui est un homme de droite, le maréchal Hindenburg, à retirer le pouvoir au chancelier social-démocrate, qui se plie de bonne grâce à cela, et à nommer un chancelier de droite, le chancelier Brüning, qui va gouverner désormais, non pas avec le Parlement, comme c'est la loi, hein, c'est la Constitution depuis 1919, mais sur le fondement de la signature présidentielle, lequel le président va activer un article, l'article 48, alinéa 2 de la Constitution de Weimar, qui est un article qui donne les plein pouvoir au président en cas de situation exceptionnelle. Ce qu'avait pensé le constituant, c'était épidémie, catastrophe naturelle, invasion du territoire, révolution. Bon, là, non. Il s'agit tout simplement de l'ordinaire du gouvernement, faire passer une nouvelle taxe sur le tabac.
De budget, en fait.
C'est des questions de budget, effectivement, à coup de 48,2. Alors, évidemment, à une unité, à une décimale près, on pense à autre chose, et pas pour rien, puisque de fait, et je le rappelle dans ce livre-là...
Et oui, vous le rappelez, la Ve République, au fond, est née de l'imagination de juristes fascinés par Weimar.
Oui.
René Capitan, le premier, qui va influencer le
René
général
Capitan,
de Gaulle.
Jeune juriste agrégé de droit nommé à l'Université de Strasbourg, donc juste en face de l'Allemagne, qui lit l'allemand, qui lit Carl Schmitt, qui admire Carl Schmitt, et qui voit ce qu'il se passe et qui, en décembre 1932, fait un article intitulé « Le rôle politique du président du Reich » pour dire que, au fond, la solution au problème de la France, ce serait une constitution présidentialiste dans la torsion qui a été opérée depuis 1930 dans la pratique présidentialiste du gouvernement à cette époque. Et c'est quelque chose, là aussi, que l'on ne dit pas dans le catéchisme qu'on nous récite. Le catéchisme qu'on nous récite, c'est le discours de Bayeux, sorti tout armé, la tête de Minerve, c'est-à-dire le général de Gaulle. Pas du tout. La généalogie de la Constitution de 1958, c'est Weimar, mais un Weimar qui a déjà péri, puisque c'est un Weimar d'état d'exception. Et ça, je le rappelle très précisément, parce que, de fait, quand on habitue la population allemande et la vie politique allemande à l'exception permanente, et les nazis vont se couler dans ces pantoufles et sous cette couette avec délectation. Ils n'auront pas grand-chose à faire, au fond, puisque déjà, les catégories d'acceptation sont là. On est déjà résigné à accepter l'autoritarisme, à accepter les saisies de journaux, à accepter la suspension des droits fondamentaux et le caractère exorbitant des pouvoirs de police, parce que ce sont des choses qui se passent comme cela depuis 3 ans en Allemagne.
À l'ordre du jour de la suite dans les idées, l'accession au pouvoir des nazis et d'Hitler en Allemagne en 1933. L'ordre du jour, c'était aussi ce roman d'Éric Vuillard qui a eu le prix Goncourt. Éric Vuillard nous rejoint pour continuer à parler de ce sujet avec Joanne Chapoutot. C'est après un extrait du nouvel album de Pigeon Pete, Apple.
Driven in my handcuffs, tripping with the moment, locking eyes on people who can kill me anyone if you scream. everything in its place. Attempt to languish, you smelt away. Cold is more vivid than I've ever seen. It splash across your face.
Settling for the good news.
You die a little bit every day. A kid with nothing to lose. Screaming down Eastern Parkway.
Everything in its place. Colors vivid.
Till you open up your car door. And watch your body take flight like you never thought a human could have loved. I watch you driving away.
All the murder in your eyes. Wrinkled marks on the backboard.
A drink bread and clothes called a tortured white night. And when that cruel dark melts in the morning. Oh, wish you good luck out there in that street. Maybe kids will live the way we do. I never meant to live so long. You walk that thin line between life.
La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
Comment l'extrême centre a mis l'extrême droite au pouvoir en Allemagne en 1933, c'est l'ordre du jour de la suite dans les idées. L'ordre du jour, c'était le titre de votre roman, Éric Vuillard, bonjour. Un roman paru au début de cette séquence politique française dont on a un peu parlé avec Johan Chapoutot en 2017. Ce roman a paru. J'imagine qu'à l'époque, vous n'imaginiez pas tout à fait ce qu'on allait vivre depuis et qui fait tant écho à ces moments historiques dont vous vous étiez saisi pour ce roman également.
Non, enfin, déjà de toute façon, bon, évidemment sur l'origine d'un roman ou d'un texte, on a tendance, enfin comme pour l'origine de toute chose, à refaire rétrospectivement un petit peu le parcours. C'est un livre que j'écrivais au fond depuis assez longtemps et j'avais publié d'autres livres entre temps. Ça faisait peut-être, je sais plus, 5, 6, 7 ans que je l'écrivais. C'est donc au fond d'un climat général dont il est question, plus que précisément de ce qui s'est passé en 2016 ou 2017. Je me souviens néanmoins de ma surprise, c'est que le livre était paru, je crois, entre les deux tours de l'élection et qu'il avait été interprété différemment avant et après. Au départ, on l'avait interprété comme une critique de la montée des extrêmes et ensuite comme quelque chose qui s'adressait plus directement à ce qu'on appelle le capital. Donc on voit qu'en quelques jours, au fond, l'interprétation qu'on donne d'un livre varie, mais au fond, les deux valent à certains égards.
Qu'est-ce qui vous avait conduit à l'époque, donc 5 ou 6 ans auparavant, à décider de vous attaquer à ce moment-là? Il y a plusieurs moments historiques dans le roman, mais à cette accession au pouvoir des nazis.
Plusieurs choses, c'est qu'au fond, ce sont souvent, pour ma part, des détails. C'est-à-dire, je lis, moi, au long cours, je ne suis pas spécialiste d'une période, comme c'est le cas de Johan Chapoutot, donc je lis au long cours sur des sujets qui, comme tout le monde, peuvent m'intéresser, parce que ce sont des sujets capitaux, là, dans le cas, évidemment, de la Deuxième Guerre mondiale, de la Shoah, je regarde des films, etc. Et puis, tout à coup, des choses, des détails, des sortes de dissonances, au fond, par rapport au savoir que j'avais pu acquérir, quelque chose me trouve, et me donne envie d'écrire, suscite aussi, pour d'autres raisons qui sont purement littéraires, comme ça, un prurite. Et alors là, en l'occurrence, je me souviens, il y avait eu plusieurs choses, mais notamment j'étais tombé sur à la fois un documentaire à l'INA, sur le site de l'INA, et en même temps dans un ouvrage sur le voyage qu'Halifax avait fait en novembre 37 au Berghof, qui était pas du tout un voyage officiel, qui était une sorte de voyage semi-officiel, assez étrange de sa part, et où on le voit d'abord avec Göring, donc dans le petit reportage, dans une calèche, si je me souviens bien, il se retrouve dans une sorte de zoo. Il y a là quelque chose qui semble, totalement pittoresque et bizarre par rapport aux événements qui sont déjà en train de se produire, et puis surtout, il racontait lui-même dans ses mémoires, qui porte le titre de Fullness of Days, Plénitude des jours, ce qui est un titre étrange pour raconter tout de même la Seconde Guerre mondiale, où cet homme nous raconte que pendant cette visite, sortant de la voiture, il a son manteau sur le bras, et puis quelqu'un, il tend son manteau, il regarde les chaussures d'abord, et alors il emploie un mot qui en allemand signifie « groll », de mauvaises chaussures, etc. Et donc il regarde le pantalon mal taillé qu'il nous décrit un instant, il tend son manteau en pensant que c'est un laquais, et en fait à ce moment-là une voix le reprend et lui dit « c'est le Führer ». Führer. Et donc il dit ah, c'était le Führer, et donc cherche à susciter au fond après-guerre, en écrivant ses mémoires, une sorte de blague, de communauté avec le lecteur autour de cette scène. Or j'avais été donc en écrivant cette scène qui m'avait tout de suite saisi parce qu'elle a quelque chose de théâtral, d'un comique étrange, je me suis rendu compte qu'elle nous enseignait au fond quelque chose sur, je sais pas comment on peut appeler ça, une sorte de savoir anthropologique sur ce que c'est que l'aveuglement d'une élite. Comment, au fond, l'inégalité institutionnelle, structurelle, dans le cadre d'Halifax, héréditaire, il est donc habitué à un certain traitement social, il a des habitudes très fortes, vous voyez, qui sont, on peut dire, quasi innées, fabrique une sorte de cécité, de mépris, de morgue. Et au fond, ce qui avait été très étrange dans ce passage, c'est que, évidemment, au début, on voudrait bien rire avec lui, se moquer d'Hitler, on est tous d'accord, mais on se rend compte qu'on rit jaune, puisqu'on est au fond en train de rire d'Hitler pour la seule raison pour laquelle on ne devrait pas rire, c'est qu'au fond, il est du même milieu qu'Halifax et que lui a effectivement de moins bonnes chaussures et des pantalons moins bien taillés. Et du coup, voilà, c'est ce point-là bizarre d'un humour au fond problématique, enfin oblique, biaisé, qui m'avait donné envie d'écrire, avec d'autres scènes évidemment sur lesquelles j'étais tombé, et notamment autour de ce, je sais pas comment dire, pas un thème, mais quelque chose que j'essayais de comprendre et saisir, c'est l'ambiance d'une élite, des manières de faire, de voir, de dire, et même là, vous voyez, après-guerre, c'est-à-dire comment on apprend, comme s'ils n'apprenaient rien, si vous voulez, de dire et de faire, qui constitue une sorte d'aveuglement, une sorte de rapport au réel problématique.
Alors ça, c'est la contribution que la littérature ou le cinéma, vous faites référence à Michael Haneke aussi, par exemple, dans votre livre, pour essayer de comprendre ce qu'étaient ces agrariens en particulier. Ça, quand on est historien, on est forcément sensible à ces contributions que la fiction peut apporter, Johann Chapoutot.
Oui, alors, bon, j'ai beaucoup lu Éric Viard et je m'en délecte. Et justement, je trouve qu'il y a chez Éric un art du portrait qui est quasiment de l'eau forte, en fait, hein, dans la définition de ces idéotypes ou de ces types sociaux d'élite autoproclamée, enfin d'élite patrimoniale. Moi, j'appelle ça des élites patrimoniales parce que ça n'a rien d'élitaire au fond, hein, ça n'a rien d'excellent. Ce sont des gens assez bêtes. Hein. Von Papen est un idiot, qui d'autant plus idiot qu'il se croit très intelligent. Et ces gens-là, au fond, ne sont élites que parce que ils sont là par hystérèse, hein, par vitesse acquise, par force acquise. Et je trouve que c'est avec son art de l'eau forte, c'est ce que fait Éric Viard hein, dans ses livres. Alors, il y a l'Ordre du Jour, il y a aussi Une sortie honorable, hein, qui est un portrait au vitriol de ces pseudo-élites de la 4e République, financière, industrielle et politique, avec un art du portrait que j'ai essayé aussi de pratiquer dans ce livre. Oui.
Et des tupes, comme on dit en allemand, qui rappellent les photos de Zander, par exemple, à certains égards. Éric Viard, qu'est-ce que ça vous a fait de vous replonger dans cette période, dans ce matériau historique? J'imagine que vous l'aviez beaucoup côtoyé pour écrire L'Ordre du Jour, mais vous avez lu récemment le livre de Johann Chapoutot.
Oui, tout à fait. En même temps, c'est très différent puisque Johann Chapoutot prend les choses plus avant et, comme vous le disiez tout à l'heure, vraiment dans le détail. Alors, la première chose, c'est le livre m'a beaucoup intéressé, beaucoup plu, puisque c'est à la fois donc un livre d'histoire qui déplie très finement chaque petit événement et qui distingue au fond parmi ces nombreux événements qui sont produits pendant cette courte période, mais qui est une période particulièrement tragique et riche au fond, qui distingue parmi eux les amorces au fond des tournants majeurs, qui sont pas forcément ce qu'on croit, vous voyez. Et au fond, c'est comme si, partant d'une base très concrète, il pratiquait une sorte de philosophie politique au fond et nous permettait d'y voir un petit peu plus clair. Alors, l'exemple, je crois que vous parliez tout à l'heure du moment où Brüning, donc, qui mène une politique de déflation, se heurtant au scepticisme de l'opposition social-démocrate, légifère par ordonnance. Bon. Johann Chapoutot nous raconte dans le détail comment la mesure est annulée donc à la demande du Reichstag grâce à une motion donc qui est déposée par le SPD et à ce moment-là donc Hindenburg le président dissout. le Parlement, et il profite d'un vide juridique pour aussitôt reprendre cette ordonnance. Et à ce moment-là, donc, Yuan Shaputo nous montre comment, au fond, en utilisant deux droits qui se trouvent effectivement dans la Constitution, mais dont le législateur, évidemment, enfin le constituant n'avait pas prévu qu'ils soient utilisés concomitamment, au fond, ruine en quelque sorte la Constitution et son esprit. Et voilà comment, au fond, on passe à une sorte de démocratie nominale. Et je crois qu'alors ça, donc, c'est le premier point qui m'a beaucoup intéressé, c'est la façon dont Yuan Shaputo arrive à préciser, à cerner comme ça un certain nombre d'événements et à en tirer vraiment quelque chose. D'autre part, le fait de reparler de mon livre me fait songer que dans le sien, je suis tombé sur, il y a un passage qui m'a particulièrement frappé, qui est le moment où il décrit comment Hindenburg, devenu président de la République, crayonne le texte de la Constitution et souligne tantôt en bleu, tantôt en rouge. Et on apprend donc par Yuan Shaputo que le rouge, dans les rapports et les cartes d'état-major, sert à noter ce qui concerne l'ennemi. Et là, en fait, on a donc toute une conception, nous dit Yuan Shaputo, sa conception des pouvoirs de la République et de leurs rapports, qui passe par ce simple jeu de couleurs. Vous voyez, il crayonne, j'ai le droit de dissoudre, les parlementaires ont le droit de faire ça. Donc, aussitôt, il envisage le Reichstag, le Parlement, comme étant un ennemi. Et alors, ce qu'on apprend là, c'est qu'au fond, à travers une petite notation, un détail, c'est comme si on lisait dans les entrailles, tout à coup, d'Hindenburg. C'est-à-dire, au fond, il a sans doute en tête quelque chose comme cette dichotomie schmittienne de ennemi-ami. Seulement, comment dire, elle est peut-être aussi en partie inconsciente. C'est quelque chose qui est en train de parler, tout comme Halifax, lorsqu'il passe son manteau, voyez Hitler le prenant pour un laquais à cause de ses chaussures. Eh bien là, Hindenburg, au fond, est dans une position qui est pour lui innée et qui sort à travers cette façon de considérer le Parlement et de noter au rouge qu'au fond, il a été élevé. Il a grandi et il possède une structure psychique et intellectuelle en profondément antidémocratique, et qui est donc trahi par ce simple jeu de crayons rouge et bleu. Et puis là, ce que vous évoquiez aussi tout à l'heure, c'est que ce qui m'a beaucoup frappé dans le livre et qui, je trouve, est très très réussi, très intéressant, c'est évidemment le rapport avec la situation d'aujourd'hui. Puisque c'est finalement un sujet qui est sans cesse évoqué par tout le monde. Et même sans être évoqué, je veux dire, nous sommes tous en train de créer sans cesse, en parlant d'aujourd'hui, des rapports au fond avec l'entre-deux-guerres. Et puis ensuite, quand on est sérieux, on remet sa cravate et on dit « mais non, comparaison n'est pas raison », etc., etc. Sauf que on ne cesse de le faire. C'est donc qu'il y a quelque chose d'abord qui nous y attire. Et d'autre part, nous sommes dans une sorte de marécage. C'est-à-dire, il y a une sorte de désorientation politique quand même très générale. Au début d'émission, vous faisiez la liste, comme ça, justement, des choses qui, dans le livre, évoquent la période contemporaine. Et donc, ce qu'il y a d'effarant, c'est quand on lit le livre de Yuan Shaputo, au gré des événements, on rencontre sans cesse, donc, le gouvernement par décret, la politique de déflation, qui est en effet une politique d'austérité stricto sensu, certains types de forfaitures qu'on connaît aujourd'hui, le même anathème sur les extrêmes qui profitent à l'extrême droite, évidemment, la tolérance des sociodémocrates à l'égard de Brüning, donc, et de la droite et de la politique d'austérité, comme s'il existait une sorte de matrice de comportement presque anthropologique, au fond, structurée évidemment par les rapports d'intérêt, et qui, comme si apparaissait dans le livre, je trouve, une sorte de loi, des lois de physique sociale, pas encore tout à fait clarifiées, mais qui sont là, latentes, en quelque sorte, comment dire, extraite par Yuan Shaputo des événements, une sorte de physique sociale à la Montesquieu, vous voyez, et qui nous montre comment, dans certaines circonstances, les individus et le pouvoir se corrompent.
Oui, Yuan Shaputo, rapidement, mais c'est vrai que moi, je l'ai lu comme un livre de sociologie politique, du fait de ces analogies dont parle à l'instant Éric Vuillard.
Oui, alors, l'histoire est toujours plastique et on emprunte un petit peu à toutes les disciplines. Effectivement, c'est de l'histoire politique très traditionnelle et très classique que j'ai faite là. Mais effectivement, j'aime bien ce mot de physique sociale qu'emploie Éric Vuillard, parce que, de fait, je fonde quand même la légitimité dans l'épilogue de la comparaison en histoire par l'analogie, hein, c'est-à-dire que dans des conditions de température et de pression pression équivalente. Certains éléments, dans certaines configurations, sont les équivalents fonctionnels d'autres. Des libéraux autoritaires des années 30 sont des gens qui défendent l'intérêt du capital, qui sont modérément démocrates, voire pas du tout, qui veulent à tout prix éviter la gauche, bref, qui se rappellent des choses effectivement ultra contemporaines. Donc c'est pleinement l'histoire, mais je me souviens de cette phrase qu'on trouve au début de la guerre du Péloponnèse, hein, de Thucydide, quand il dit que l'histoire est un trésor pour toujours. Et je me suis souvenu également de Durkheim, pourtant père du positivisme, scientiste presque, qui dit que si la sociologie n'est que spéculative, elle ne vaut même pas une heure de peine. Et là, je pense que ça vaut un petit peu plus qu'une heure de peine, puisque de fait, cela permet de tirer, sinon des leçons, parce que le mot est un petit peu abusif, mais du moins quelques enseignements pour notre temps, ça permet d'élucider des situations sociales et politiques au banc d'essai, si vous voulez, du passé.
Les irresponsables qui a porté Hitler au pouvoir, c'est le titre du livre de Johann Chapoutot qui paraît aux éditions Gallimard. Et puis, on peut évidemment citer le roman d'Éric Vuillard, L'ordre du jour. Vous retrouvez les titres sur la page de l'émission.
France Culture, la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
Il y a 3 jours, un grand sociologue né en Angleterre, mais qui a fait l'essentiel de sa carrière aux États-Unis. Il était professeur à l'université de Berkeley. Michael Burrowoy est mort, écrasé par un chauffard au volant d'un SUV dans la ville de Auckland, la ville de son université. On pourrait y lire une mort tragique au moment où c'est l'ensemble des sciences humaines et sociales qui se trouve bousculé, renversé par une nouvelle administration. J'ai voulu qu'on lui rende hommage ici parce que c'est un sociologue qui a été traduit en français, dont on connaît un peu le travail en France, et notamment ses contributions et son appel à ce qu'il appelait une sociologie public. Alors j'ai demandé à Quentin Ravelli, qui est l'un de ses traducteurs en France, qui est sociologue, chargé de recherche au CNRS, de venir nous en parler. C'était qui pour vous, Michael Burrowoy?
Alors, Michael Burrowoy, effectivement, j'ai appris avec une grande tristesse qu'il a été vraiment projeté il y a quelques jours, mort sur le coup. Et ce qui est particulièrement triste, à un moment effectivement de tournant politique mondial, c'est qu'il incarnait pour moi cette capacité à maintenir ensemble des contradictions qui semblent insolubles. C'était à la fois un marxiste au pays du maccartisme, de l'anticommunisme.
Et un marxisme formé à l'université de Chicago.
Formé étrangement à l'université de Chicago, où effectivement il détonnait déjà dans les rangs d'une école qui ne pensait pas comme lui. Il réussit à gravir les échelons de l'université américaine contre vent et marée. C'est un marxiste qui lui-même n'est pas un marxiste habituel. Puisque
c'est un ethnographe.
Il est ethnographe, donc il s'intéresse aux données empiriques. C'est un marxiste subtil. C'est pas toujours évident de l'être et de le rester. C'est un marxiste qui se revendiquait de Gramsci sans avoir jamais été cet intellectuel organique que Gramsci appelait de ses voeux et qu'il était d'ailleurs lui-même. Il a toujours, Michael Burrowoy, gardé son indépendance d'esprit sans être quelqu'un de partisan, ce qui est compliqué à imaginer quand on a une carrière de plus de 47 ans à l'université de Berkeley, de maintenir le cap sans avoir aucun lien avec des organisations politiques. C'est aussi quelqu'un qui est... Voilà, qui venait d'une famille juive, sa mère est née à Riga, émigrée à Saint-Pétersbourg, son père est ukrainien, de Dniepr, bombardé par l'armée russe pendant ces 2 dernières années, ils sont rencontrés ses parents à Leipzig.
C'était des chercheurs.
Et son père était chimiste, et il y avait quelque chose de scientifique chez eux, mais quand ils émigrent à nouveau, au moment... justement de l'arrivée d'Hitler au pouvoir.
Au début des années 30.
Oui, 33. C'est ça, exactement. Il s'installe à Manchester. Effectivement, c'est une nouvelle vie qui commence. Il a d'abord une formation de mathématicien à Cambridge. Ensuite, il arrive aux États-Unis.
Et avant ça, il passe par l'Afrique. Par l'Afrique dans un moment de décolonisation, parce qu'il va travailler en Zambie, en fait.
Oui, alors ça fait partie des aspects intéressants de cette capacité à maintenir ensemble des contradictions, puisque il va en Zambie et il souhaite, comme il l'a toujours fait, aller travailler au fond des mines de cuivre, quelques années après l'indépendance. il fera la même chose au nord de la Russie, en Sibérie, à Chicago. Mais sa carrière universitaire commence effectivement dans les mines de cuivre, avec ce qu'il appelle cette capacité à tester de façon kamikaze ses hypothèses. Parce qu'il imaginait qu'en réalité, s'il restait à la direction des mines une caste de blancs qui tenait les rênes de la production, c'était peut-être des scories de la colonisation. Mais en fait, non, c'est un instrument pour tisser le nouvel État indépendant qui reste travaillé par plein de contradictions. Et en fait, c'est ça, à mon avis, Mikhaïl Buravoï. Là, je pense à sa sœur, à son petit-neveu, à plein de gens qui sont sans doute très tristes aujourd'hui. Mais c'est cette capacité à tracer une voie tout en gardant son indépendance d'esprit. Voilà. Alors, il a été connu pour d'autres choses. Peut-être ce qui restera, c'est cette théorisation du consentement au travail.
La fabrique du consentement.
La fabrique du consentement, produire le consentement. Où là encore, tout en étant cette universitaire chevronnée qui réussit à être publiée dans des revues qui ne sont pas favorables, évidemment, à ses idées à l'époque, souhaite, voilà, être un ouvrier du rang pendant plusieurs mois. Et il raconte comment cette organisation très politique, en fait, l'usine, c'est pas un endroit à la porte duquel s'arrête la politique. Donc il va raconter comment dans les ateliers, il y a une politique du consentement au travail qui se met en place, qu'ils appellent le jeu du making out, et où les ouvriers participent à leur propre aliénation d'une certaine manière, mais en tissant entre eux tout un système d'incitation fondé sur le travail aux pièces auquel participent les syndicats, etc.
Donc c'est vraiment... C'est en ce sens-là qu'il n'est pas gramscien, il ne se contente pas de l'idée générale d'hégémonie culturelle dans le pays ou dans la classe sociale. Il va voir en détail à l'intérieur des situations
d'emploi. Il va aller voir dans le cœur de la bête comment est-ce qu'on passe d'un capitalisme qu'il estime concurrentiel à un capitalisme monopolistique. Donc en fait, il s'intéresse aux grandes transformations. Les indépendances, le capitalisme qui se transforme, l'effondrement du bloc soviétique, mais toujours au ras des interactions dans les milieux de travail, quoi. Donc c'est ça le dernier grand volet, c'est effectivement quand il va aller dans les usines de fabrication de champagne ou dans les aciéries Lénine en Hongrie. Et là, cette fois, ce qui remet en question, c'est ces petites bureaucraties qui limitent l'autonomie ouvrière, quoi.
Alors ce qu'on connaît aussi en France de Mikhaïl Buravoï, c'est deux autres choses. C'est son dialogue avec l'œuvre de Pierre Bourdieu, qui a été traduite. Je vous avais traduit en partie ce livre, paru chez Amsterdam, Quentin Hervély. C'était un lecteur et un lecteur critique de la sociologie critique.
Oui, je pense même que Manufacturing Consent vient en fait des marxistes critiques hétérodoxes français, Althusser, Balibar. On a mis 40 ans à le traduire en France. Il y avait entre-temps des versions en mandarin, par exemple, qui marchaient plutôt bien. Et c'est vrai que il y a une façon aussi pour reparler de la sociologie publique qu'il appelait de ses vœux dans la dernière partie de sa vie, de considérer que tous ces débats doivent être portés dans le grand public. Alors on peut se dire finalement ce vœu que la sociologie avec un grand S puisse transformer la société, c'est peut-être difficile à imaginer, mais ce qu'il faut lui reconnaître, c'est cette conviction, cette foi dans la capacité peut-être à créer des universités qui sont des espaces critiques non soumis aux impératifs du marché, du capitalisme, et dans lequel on peut imaginer effectivement des solutions aux contradictions sociales dans lesquelles on est plongé. Moi, je repenserai toujours à... Enfin, il avait une manière de parler aussi, hein. Je sais pas si on a le temps d'en parler, mais en fait tous ces voyages, toutes ces expériences se sédimentaient dans un accent anglais dans lequel il y avait des éléments du parler un peu populaire de Manchester, l'accent un peu plus nasal de la côte ouest des États-Unis, des citations d'Afrique du Sud,
un accent palimpseste.
Voilà, c'est ça, en fait des strates, quoi. Et je pense que c'est cette capacité à incarner de manière, avec beaucoup d'abnégation, parce que moi c'est ça qui m'a toujours frappé, c'est qu'il était il vivait dans une forme d'austérité, hein, entièrement dédiée à ses recherches, et capable comme ça, dans le monde entier, de façon complètement gratuite et désintéressée, de former des gens en sémant des petites graines qui vont pousser. Voilà. Alors, je sais pas si on a un mot pour terminer, mais voilà cette espèce de d'image du SUV qui écrase un universitaire marxiste. J'espère que le leg que nous aura laissé Buravoy nous permettra d'éviter que politiquement on se fasse renverser. Et je pense que il a ouvert une voie et laissé la possibilité à cet espace-là d'exister, quoi. Et donc je pense que on a tout intérêt à le garder précieusement et à essayer de le développer, surtout dans les mois à venir et les années à venir qui vont s'avérer un peu difficile politiquement.
Merci beaucoup Quentin Ravelli pour ce bel hommage à Michael Buravoy, dont on peut lire des livres en français, À la ville qui brûle ou aux éditions Amsterdam notamment. C'était la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau avec Seam Boutata, Grégory Wallon à la technique ce soir et Jean-Christophe Francis à la réalisation.